de 9h à 11h, Laurent Dehaussay, Caroline Veit, Le Grand Mag, sur la Première.
Théâtre anglais. C'était un miracle pour moi. J'étais envie de l'y aller et me suivre.
Femme au bois, oui. Vous connaissez-vous ce nom? C'est même bagarre.
Voilà du créole haïtien ici, extrait de ce film Toi, Timoun, qui sera présenté à la Berlinale les 11, 12 et 13 février. C'est un film qui est réalisé par Jonas Adeski qui est avec nous. Bonjour Jonas.
Bonjour Jonas. Alors pour ce long métrage, vous étiez parti à Port-au-Prince, c'était quelques mois après le tremblement de terre. Au départ, vous partez comme volontaire pour aider dans un centre d'accueil qui accueille des enfants de la rue. Et puis à ce projet de documentaire est venu se greffer un projet de fiction. Alors au départ, vous étiez parti pourquoi là-bas? Parce qu'on sait que vous êtes un grand voyageur, vous avez filmé en Europe, en Chine. Pourquoi Haïti à ce moment-là?
Mais il faut préciser que je terminais mes études à ce moment-là. Ouais. Donc je suis parti en septembre et j'ai vraiment fini, j'ai rendu mon mémoire à l'IAD en septembre. Et donc pourquoi ce pays-là? En fait, c'est lié à ma compagne qui est assistante sociale, Inès, donc qui avait décidé de prendre une pause carrière pour partir en Haïti. Et qui m'en a parlé, et puis finalement, en continuant à discuter, j'ai dit bon, ben finalement, ça tombe en même temps que moi à la fin de mes études. Je voulais depuis longtemps vivre une expérience à l'étranger, et donc voilà, j'ai décidé de l'accompagner, et c'est devenu un projet qu'on a un petit peu recherché à deux, où on a été démarché des ONG, et puis on est tombé sur l'ONG Geomoon qui soutient ce projet Team Katek en Haïti. Mmh. Et donc c'est comme ça que moi, ils étaient intéressés par mon profil pour réaliser un documentaire sur place, et ma compagne pour travailler dans tout ce qui était logistique, organisation sur place. Mmh. Cette structure Team Katek en Haïti, à Port-au-Prince, avait la particularité d'être gérée uniquement par des Haïtiens.
Ce qui est rare, donc, apparemment.
Voilà, ce qui est rare dans le contexte où il y a énormément d'ONG sur place. Et donc, on a eu la chance, finalement, d'être baigné dans une réalité qui était la réalité des locaux, c'est-à-dire d'être confronté au fait de marcher dans la rue, de prendre les tap-tap, qui sont les camionnettes qui permettent de circuler, et de vivre un peu avec les gamins. Nous, on avait un gamin qui était un des gardiens de l'endroit où on logeait. Donc, on a eu, finalement, cette chance de pouvoir être baigné dans la culture locale, dans le créole, dans une réalité qui est pas celle de la plupart des expatriés, parce qu'il y a vraiment, en Haïti, il y a vraiment une sorte d'économie à deux vitesses avec des je dirais 20% de la population qui vit un peu comme ici, et puis 80% qui vit vraiment avec pas grand-chose, dans une économie informelle où ils essayent de se débrouiller pour survivre quelque part.
Et cette ONG, cette association s'intéresse plus précisément aux enfants, hein, elle essaie de réinsérer au fond ces enfants qui sont déscolarisés ou dans la rue.
Exactement, donc enfants ou adolescents, filles et garçons. Et donc c'est vraiment, il y a une partie internat qui est celle qu'on voit au début du film, avec une école primaire pour garçons. Il y a la même chose pour les filles. Mmh. Et puis il y a une école professionnelle, donc à partir du moment où ils ont 14 ans, où ils peuvent apprendre un petit métier comme cordonnerie, plomberie, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un développement qui est fait pour aider effectivement les enfants démunis, donc qui rentrent là parce que ils n'ont pas pu aller dans l'école traditionnelle. Souvent ils ne parlent que le créole, et donc cette école Team Katek a la particularité d'enseigner d'abord en créole pour les faire petit à petit rentrer dans l'apprentissage et leur apprendre le français par la suite.
Mmh. Alors là, vous arrivez à Haïti, on est 9 mois après le tremblement de terre. Quelle est l'ambiance? Dans quel univers vous arrivez? Parce qu'on imagine que le dénuement doit être encore plus grand qu'avant.
On arrive, nous, quand même dans une sorte de peur, parce qu'on nous a dit beaucoup de choses sur Haïti, comme quoi, effectivement, il y avait de la violence, il y avait des enlèvements. C'était aussi juste avant les élections, donc une période de grande tension en Haïti qu'on a vécue de l'intérieur, puisque nous arrivait de... d'en fait sortir dans la rue, puisqu'on n'était pas vraiment prévenus, comme la plupart des expatriés, ce qui se passait, et puis de tomber sur des émeutes avec des pneus brûlés dans la rue. On a vécu ça aussi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'avantage, c'est que comme on était dans cette structure que haïtienne, qu'on était avec les enfants, finalement, on est très vite sortis dans la rue, on a très vite été rencontrer des familles. Moi, à un moment donné, j'ai compris que c'était possible aussi de filmer dans la rue avec ma petite caméra au départ et d'avoir des images. Et puis, j'ai aussi très vite appris le créole parce que forcément, on était en contact avec ces gamins qui, pour la plupart, ne parlent que le créole, comme je viens de le dire au départ. On a dû apprendre ça pour essayer de communiquer avec eux parce que le français, ils comprennent certains mots, certaines choses, mais c'est difficile. Moi aussi, je me suis rendu compte que pour pouvoir faire mon projet de film à côté, donc de fiction, il fallait que je le fasse en créole. Et pour l'anecdote, en fait, j'ai travaillé avec un assistant réalisateur haïtien que je voulais, qui me servirait aussi d'interprète pour pouvoir en fait parler créole mieux aux enfants. Et donc, à un moment donné, j'avais un scénario que j'ai écrit sur place. Donc, au départ, l'idée, c'est que j'ai vraiment écrit le résumé du film avant de partir, sur base de ce que j'imaginais.
Oui, quel a été le déclic en fait? Parce qu'on disait, vous partez au départ pour un documentaire, et finalement vous décidez de faire une fiction. Qu'est-ce qui vous a incité à passer d'un projet à l'autre finalement?
C'est plus en discutant autour de moi, voilà, en disant je vais partir là-bas. Et au départ, je pensais vraiment être dans une logique plus humanitaire, ce qu'on a fait. D'ailleurs, on faisait des projections de films, des jeux avec les enfants. Puis les gens m'ont dit, mais écoute, ce serait pas mal aussi d'essayer de profiter de ta formation pour quand même aller plus loin au-delà du documentaire, d'essayer d'avoir peut-être un projet. Et donc, je me suis dit, je vais écrire. Et je vais écrire comme si je pouvais faire le film que je voulais. Je voulais depuis longtemps travailler avec des enfants, pour le côté spontané qu'ils ont, pour aussi le fait que les enfants, pour moi, ne seraient pas dans une logique où ils allaient analyser ce qui représentait. Et donc, moi, j'avais très peur de travailler avec des adultes haïtiens, pas comédiens en plus, et puis qui voudraient représenter une certaine image de... ça me permettait aussi, ce que j'ai écrit, et je pense que c'était cette trame assez simple finalement de trois amis. J'aimais bien qu'ils soient trois parce que je pense que ça crée une sorte de déséquilibre qui est intéressant à exploiter. Et puis je voulais vraiment trois amis qui soient dans leur univers et qui même par rapport au séisme voient ça, puisque c'est un peu le cas dans le film, voient ça comme un petit miracle au début. Ils s'en vont et ils ont l'impression que la ville s'ouvre à eux. Et j'aimais bien de prendre ça à rebours de ce qu'on avait comme image en général. Et donc d'être dans une certaine énergie positive, même par rapport à ça. Ça m'intéressait très fort, c'était un peu le fil rouge. Et donc j'ai écrit sur cette base-là, en me disant, c'est une utopie, de toute façon, j'aurais du mal, mais peut-être je vais essayer de le réaliser avec les gamins sur place, de faire quelque chose un peu... Et finalement, les choses se sont bien mises, entre guillemets, à travers une série de hasards, qui fait qu'il y a mon collègue Benjamin Morel de l'IAD qui a proposé de me rejoindre sur base du scénario. Puis j'ai trouvé cet interprète qui m'a aidé à traduire le scénario, qui est d'ailleurs un ancien élève de la Team Katech, qui s'appelle Steve Jean. Et pour l'anecdote d'ailleurs, quand il est venu chez moi, je lui ai dit, tu fais un paragraphe en dessous sur l'ordinateur français, tu mets en créole. Il m'a dit, mais Jonas, j'ai jamais touché un ordinateur de ma vie, ce sera plus simple si je te dicte. Et donc il m'a dicté 90 pages de scénario en créole. Donc à chaque mot, je demandais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je les ai écrits. Donc imaginez bien, à la fin de ce travail-là, moi je parlais couramment créole, et sur le tournage, ça a été j'aurais pas pu faire le tournage en fait si j'avais pas fait ce travail-là avant. Donc au début, je râlais, parce que c'était un énorme boulot, on a passé 3 semaines là-dessus, et finalement, à l'arrivée, le film n'aurait pas été possible sans ça. Donc là aussi, c'est encore un hasard positif qui a aidé le projet.
On va rester avec vous, Jonas Adeski. Ce film, Toi Timoun, c'est tout simplement trois enfants en créole.
Absolument.
On va discuter encore de l'aventure de ce film. C'est une belle aventure puisque vous allez à la Berlinale, là vous partez demain ou après-demain. Mais il a fallu aller la chercher quand même. Vous le rappeliez, 4 pour réaliser ce film, ce qui est une toute, toute petite équipe.
Le Grand Mag, de 9h à 11h sur la première.
C'est toujours Jonas Adeski qui est avec nous pour ce film Toi Timoun qui est reparti donc Jonas en Haïti filmer trois enfants, trois gamins, trois amis en quête de liberté à Port-au-Prince. Le film sera présenté à la Berlinale. En attendant, Jonas Adeski est avec nous.
Oui, alors ces trois enfants, ils profitent du tremblement de terre et de la confusion qui règne pour sortir d'un centre d'accueil dans lequel ils sont hébergés, vivre leur vie à trois dans une maison qui tombe à moitié en ruine, avec tout ce paradoxe aussi d'avoir cette envie de liberté et de se dire aussi, s'ils ne retournent pas dans ce centre, il n'y a pas d'avenir possible en fait pour eux. C'est une vie qui rapidement ne mène à rien.
Oui, c'est ça. C'est ça qui m'intéressait. Bon, dans la trame de l'histoire, c'est que justement, après le tremblement de terre, ils soient dans une espèce de liberté absolue, et puis que petit à petit, ils prennent conscience que s'ils veulent se construire un avenir, il faut malgré tout faire un effort, apprendre des choses. Et à un moment donné, il y a une tension qui se crée entre deux gamins par rapport au troisième. Bon, je vais pas dévoiler l'intrigue, mais c'est très frappant, puisque moi-même, j'ai été confronté à ça. J'ai vu notamment en faisant mon documentaire, j'ai filmé des gamins qui travaillaient dans la rue, qui nettoyaient des voitures, et je leur disais, écoutez, il y a une structure qui existe, la Team Catech, vous pouvez y aller, c'est à côté, c'est gratuit, vous allez apprendre. Et c'était pas facile parce qu'en fait, eux, ils étaient aussi dans un mode de vie où finalement, Haïti a un climat formidable, ils étaient dans la rue, ils étaient avec leurs amis, ils travaillaient un petit peu, ils jouaient aux cartes. Et ils sont dans une sorte de conscience du temps présent, quoi. Et puis, à un moment donné, il y a parfois un déclic qui se fait, qui fait que, ils se disent... Et notamment, j'y suis retourné, là, en janvier, pour montrer en Haïti, donc pour montrer le film aux enfants. Et ben, j'ai notamment retrouvé un des gamins que j'avais filmé dans mon documentaire, qui était dans la rue, dans le centre. Donc, vous voyez, il y a des choses qui existent, mais c'est pas toujours facile de... Parce que même s'ils comprennent qu'il y a une formation possible... Ils ne croient pas toujours à l'avenir, même par rapport à cette formation. C'est-à-dire, et après, on est à l'école primaire, puis quoi, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est pas évident.
C'est un film qui montre que même dans ce genre de tragédie, il y a de la vie quand même, il y a de la joie aussi. Ce sont des enfants quand même qui s'amusent, qui jouent au football, qui ont des rêves aussi. Il y en a un des trois qui rêve d'être maçon pour reconstruire Port-au-Prince au cas où une telle catastrophe arriverait encore.
Oui, et un autre d'ailleurs qui veut devenir mécanicien, réparer les avions. Et je dirais c'est encore plus formidable celui-là parce que ça c'est un rêve qui est ambitieux, j'ai envie de dire. Et souvent le problème c'est que leurs rêves sont cantonnés à ce qu'ils peuvent imaginer et cantonnés à l'ouverture qu'ils ont sur le monde. Souvent c'est des enfants qui sont jamais sortis du pays. Il y a énormément une grosse partie de la population qui n'est jamais sortie du pays. Ils ont une ouverture qui passe souvent par la télévision, mais alors donc ça c'est forcément très interpellant et on a envie de dire d'essayer de les ouvrir sur la culture, sur pas mal de choses, mais ils sont curieux et c'est sûr que ils ont des envies. Mais moi ça c'est vrai que ce qui m'interpelle c'est quand il y a des rêves comme ça et j'ai envie de dire c'est chouette, il y a une envie forte là derrière. Et ce serait, moi, si je peux continuer à aider ces gamins par après, j'essaierai de le faire. Mais...
On imagine que comme vous êtes retourné à Haïti, vous avez dû les revoir. Est-ce que ces trois gamins que vous avez filmés, justement, continuent d'évoluer, de se former, justement, et ils se construisent un avenir autre que celui de traîner dans la rue?
Oui, donc ils sont à la Team Catech, là, et pour l'instant, Pour deux d'entre eux, ils sont en dernière année du cycle primaire à Team Catech. Maintenant, c'est des gamins qui ont 14 ans. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont embrayer vers un métier, sans doute la maçonnerie, je pense, pour les deux qui sont encore à la Team Catech. Le troisième, Sima Mikkelsen, est dans l'école traditionnelle maintenant, donc il a changé de structure. Mais enfin, il suit des cours, donc les choses avancent. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'ils ont quand même une inquiétude par rapport à leur avenir. Mais comme beaucoup en Haïti, moi ce que j'espère c'est qu'ils puissent aller au bout d'une formation, que je puisse peut-être les aider par rapport à ça, et puis qu'on reste en contact aussi par la suite.
Vous l'évoquiez, Jonas, il y a un travail sur le temps dans ce film, le temps qui, lorsque l'avenir justement est très très incertain, ne se découle pas de la même manière. Il y a une scène qui est très forte où le petit garçon demande une horloge pour calculer ce que fait 35 secondes, ce qui est le temps de la secousse. Il se rend compte que c'est très long, 35 secondes.
Oui, je pense le temps, ce qui était important ici dans le film, et je pense que c'est là aussi l'aspect fictionnel du film, c'est qu'on est vraiment j'ai essayé de rentrer dans l'intériorité de ces enfants, c'est-à-dire d'être dans leur point de vue et d'être dans une temporalité plus subjective, c'est-à-dire que on n'est pas dans une succession de scènes tout à fait chronologique, il y a beaucoup d'ellipses, il y a même un jeu sur ce qui va se passer par après qu'on anticipe, et donc ça c'est important parce qu'on est, je pense c'est aussi l'originalité du film, c'est un film qui est en créole, qui est sur des enfants, qui est une fiction. Je pense que à ma connaissance il y a pas de films qui ont été faits en Haïti avec des enfants en créole, et en plus où on rentre effectivement, moi c'est ce qui m'intéresse dans mon cinéma en général, c'est d'essayer de vraiment rentrer dans la tête des personnages, quoi. Et donc d'une certaine manière on est dans la tête d'un personnage qui est Vitalem dans le film parce qu'il est hanté par ses souvenirs d'enfants en domesticité. C'est un problème important en Haïti, c'est le problème de reste avec, de ces enfants donc, dont les parents n'ont pas les moyens de les garder avec eux, leur donner une éducation. Donc il les place chez des gens qui en fait les exploitent de différentes manières. Mmh. Et donc ça s'améliore, les choses s'améliorent en Haïti parce qu'il y a une conscience de ça. Mais donc lui, c'est pour ça qu'il est hanté par cette envie de liberté, parce qu'il a vécu ça avant. Et puis les deux autres, on suit finalement leurs envies et leur histoire à travers des confrontations qu'ils ont justement avec l'assistance sociale, dont ce moment en 35 secondes.
Ouais.
Effectivement, c'est très long, et je pense que surtout pour les gens, moi je ne l'ai pas vécu directement, mais pour les gens qui l'ont vécu, c'est extrêmement long. En fait.
Et ces séances avec l'assistance sociale sont très intenses, mais très pudiques, parce que l'émotion avec les enfants, c'est très facile à obtenir. Enfin, je veux dire, c'est très émouvant de voir des enfants qui ne sont pas très dans les conditions les plus favorables, mais vous avez gardé beaucoup de pudeur. Ils sont pudiques, ces enfants, eux-mêmes?
Pas plus que d'autres enfants. Je pense que là, l'originalité du film ici, c'est qu'une fois que j'ai trouvé mon casting, en fait, j'ai parlé avec eux, je les ai vraiment interrogés sur leur histoire, leur famille, leurs envies, leurs problèmes. Et en fait, j'ai intégré ça dans les dialogues des scènes avec l'assistante sociale. Et donc, il y a énormément de ces scènes, dans les trois quarts des choses qui sont dites dans ces scènes, sont vraiment des choses qui leur sont arrivées ou qui pensent. Et donc, forcément, quand un enfant, je pense à Pierre-Jean-Marie qui parle de ses parents qui sont morts avant le séisme, je veux dire, c'est pas une émotion fabriquée, c'est complètement, on n'a pas répété cette scène plusieurs fois. C'était vraiment quelque chose, je pense là, on était dans un truc, même moi je ne disais rien, je dis, il y a une sorte de. Donc il y a une sorte de vérité qui s'est échappée par moments de ces scènes-là, je pense, qui est assez, assez belle.
Qui se retrouve donc dans Toi, Timoun, c'est ce film que vous allez présenter à la Berlinale, Jonas Adeski. Ce sera l'occasion évidemment de trouver là-bas, on vous le souhaite de tout cœur, un distributeur, et donc de pouvoir voir ce film ici chez nous dans les mois qui arrivent. Voilà, bon vent, Jonas Adeski, merci d'être
bon
passé
festival.
Par chez nous.
Merci beaucoup.
Le Grand Mag, de 9h à 11h sur la première.